Merci d'être venu pour écouter la conférence de Camille. Camille est maître de conférence à la faculté, alors ça s'appelle l'Institut catholique de Paris, c'est ce qu'on appelle ordinairement la Cato, et il a écrit un livre sur Bergson qui s'appelle Archéologie de Bergson, qui est paru aux Presses universitaires de France, et il connaît bien, puisqu'il a passé sa thèse il y a quand même pas trop longtemps, je sais pas, il y a 8 ans, 9 ans, sur Bergson. Voilà. Donc, il va concentrer son exposé sur le deuxième chapitre qui est au programme des classes scientifiques. Je lui ai dit que le degré d'appropriation du texte était très variable suivant les élèves. Certains ont lu ce qu'ils ont pu, d'autres ont bien travaillé le texte. Donc, que ceux qui ont bien travaillé le texte ne se formalise pas si Camille est très pédagogue et que les autres ne s'inquiètent pas s'ils comprennent pas tout. Voilà. Et vous pourrez lui poser des questions à la fin de son exposé, comme d'habitude. On fera passer le micro. Voilà. Bien. Donc, je lui cède la parole.
Donc, merci pour l'invitation. Je suis pas sûr d'être fin pédagogue. Les spécialistes d'un auteur le sont jamais. C'est une erreur d'inviter un spécialiste pour parler simplement de son auteur. On parle jamais aussi bien des auteurs qu'on connaît pas. Je sais pas si les professeurs dans la salle m'approuveront, mais c'est mon cas. Donc espérons que je serai suffisamment clair, quitte à être plus clair par la suite avec les questions que vous me poserez. La thèse de Bergson s'est laissée sur les données immées de la conscience. C'est son travail de thèse, de recherche. Et le plus surprenant, c'est précisément qu'initialement, son projet n'était pas celui-ci. Toute la philosophie de Bergson est née d'un refus et d'une surprise. Pour résumer la chose, d'un refus, le temps n'est pas de l'espace, et d'une surprise, le temps scientifique ne dure pas. Le temps scientifique, le temps de la mécanique, ne dure pas, il a été spatialisé, il a été déroulé dans l'espace, et d'une certaine manière, il a été nié dans son essence, qui est justement de durer. Et la raison en est que Bergson, justement avant qu'il ne devienne Bergson, avait projeté une thèse en philosophie des sciences. Il était au fond le contraire de ce qu'il est devenu. Initialement, c'était un mécaniste. Il refusait même de se dire matérialiste, tant il détestait la métaphysique, tant il détestait la psychologie. Il était simplement scientiste. Et son projet initial, c'était au fond de fonder la science, d'éclaircir les notions les plus fondamentales de la science, comme le mouvement, la matière, le temps. Autant de notions qu'il jugeait encore insuffisamment éclaircies dans le cadre d'une philosophie des sciences. Et c'est en un sens approfondissant cette notion de temps qu'il voulait fonder en physique, en mécanique, qu'il s'est aperçu qu'elle lui échappait, qu'elle lui était réfractaire, qu'elle était réfractaire à ses analyses et à sa conceptualisation, et qu'elle venait se fondre en quelque chose de psychologique, mais comme malgré lui. Genre que c'est comme à son insu qu'il a fait cette découverte de la durée pure, qui lui a indiqué une toute autre direction dans laquelle il s'est justement par la suite engagé et engageant tout le bergsonisme. C'est là l'acte de naissance du bergsonisme, finalement ayant pensé contre lui-même. Donc le point de départ, c'est celui-ci. C'est par là qu'il faut commencer le temps mathématique, le temps de la mécanique. Il faut partir, même dans l'explication que vous pourrez en donner, il faut partir du temps scientifique. C'est par elle que Bergson lui-même commença. C'est le véritable point de départ du livre. C'est-à-dire, dans le chapitre 2, par exemple, lui-même, dans une lettre, le disait, les pages 87 à 90. Le point de départ, les premières pages, au fond, ce furent celles-ci, 87 à 90, qui portent sur l'analyse de la notion de vitesse, la vitesse en mécanique. Donc, Bergson n'interroge pas d'abord le temps du sens commun, le temps social, le temps humain dans lequel nous vivons, celui que nous comptons et sur lequel nous comptons. Il s'intéresse d'abord au temps mathématique, au temps de la science, de la mécanique. Et ce qu'il a commencé d'ouvrir, tout simplement, ce sont les traités de mécanique, les traités de l'époque, pour voir la signification que le temps prenait dans les équations physiques, dans les équations astronomiques, par exemple, comme simple facteur T. Et donc, c'est en ouvrant les manuels de mécanique qu'il s'est aperçu, avec étonnement, que le temps n'y était pas défini dans sa nature propre. que la durée, au fond, dans les traités de mécanique, y était proprement absente. Pourquoi ? Parce que le temps, il est toujours compris, non pas comme durée, mais comme une égalité entre deux durées. C'est un rapport qui est proposé. Non pas la durée, mais une égalité entre deux durées, et même entre deux intervalles de durée dont on a noté la simultanéité. Ainsi, par exemple, pour calculer la vitesse d'un mobile, il suffit simplement de se choisir un mouvement de référence, quel qu'il soit, capable de nous fournir une unité de temps, le facteur T. Par exemple, la sonnerie d'un téléphone, ou la chute d'une pierre, ou simplement même le mouvement du chef d'orchestre, n'importe quoi. Quelque chose, si je puis dire, qui peut constituer une base référentielle, une unité de mesure capable de mesurer la vitesse du mobile, dont on se proposera donc de mesurer le temps qu'il met à parcourir un certain espace. Et on dira alors que le temps mesuré équivaut au nombre de T, au nombre de T qu'on a pu compter durant le trajet parcouru. Voilà ce que nous dit Bergson. L'intervalle, par exemple, entre temps, entre T et T', peut être le plus petit possible, peut-être même infiniment petit, ce qu'on appelle une différentielle, il sera encore un intervalle stabilisé en point, éclaté entre un avant et un après. Il sera de l'espace. C'est-à-dire que même la mathématique moderne, pourtant non algébrique, qui cherche à s'approcher du temps dans sa durée, qui cherche à s'approcher du mouvement dans sa mobilité, considère toujours, nous dit Bergson, des moments, des stations virtuelles, des immobilités, et jamais l'intervalle lui-même qui les sépare. Si petit qu'on se l'imagine. Je cite Bergson à la page 89. Il écrit « C'est toujours à une extrémité de l'intervalle que la mathématique se place, si petit qu'elle le conçoive. Quant à l'intervalle lui-même, quant à la durée et au mouvement, en un mot, il reste nécessairement en dehors de l'équation. » Bref, l'intervalle de temps qui sépare deux simultanéités, T', est à jamais irréductible. Hein, car c'est ce que dit Bergson, je le cite, « Il n'y a pas et ne peut y avoir d'instant immédiatement antérieur à un instant, pas plus qu'il n'y a de point mathématique contigu à un point mathématique. » Donc l'instant immédiatement antérieur n'est en réalité relié à l'instant présent qu'en traversant un intervalle d'été négligé par le physicien, que le physicien justement ne peut pas prendre en compte. Donc quelle que soit la position du mobile, il a sa vitesse présente, qui n'est jamais que du présent avec sa tendance, c'est-à-dire de l'instantané, du simultané. La science se contente de compter des simultanéités sans s'occuper de la mobilité du mouvement, sans s'occuper de la durée du temps, c'est-à-dire au fond de ce qui relie les intervalles entre eux, sans s'occuper de ce flux qui va d'une simultanéité à l'autre. Bref, pour le dire d'une formule, c'est compter le temps sans jamais s'intéresser au nombre. C'est s'intéresser au nombre d'unités sans s'intéresser, sans s'inquiéter des unités elles-mêmes. Je vais évidemment revenir sur ce point, mais tout le point de départ de l'ouvrage vient de là, ni plus ni moins. C'est-à-dire que dire que le temps est un nombre, t'es plus saine, c'est non seulement donc omettre de le définir au profit d'un rapport d'égalité, encore une fois, entre deux durées, mais c'est par là même lui substituer subrepticement la notion d'espace avec laquelle justement la science va désormais le confondre. Et donc c'est là qu'on peut revenir au début du chapitre 2. C'est précisément avec cette idée que la science a toujours défini le temps comme un nombre, qu'il est possible de comprendre pourquoi Bergson ouvre le chapitre 2 par une analyse du nombre. Parce que précisément jusqu'ici, le temps a toujours été considéré comme un nombre, T plus N. Ne serait-ce que par la définition qu'en donne Aristote au livre 4 de la physique, le temps, nombre du mouvement selon l'avant et l'après. Donc, philosophes, savants, tous en un sens s'étaient accordés pour dire du temps qu'il était un nombre. Le nombre, et c'est là que je reprends les premières pages du chapitre 2, le nombre, c'était un certain type de multiplicité dont Bergson s'attachait à montrer qu'il se soustrait à toute prise sur la pure durée. Et qu'il implique en lui la seule notion d'espace. En effet, les unités, pour être comptées, nous dit Bergson, doivent être nécessairement qualitativement identiques et numériquement distinctes. C'est-à-dire, ce sera son vocabulaire, évidemment on va revenir sur lui, homogènes et discontinues. C'est-à-dire que l'idée, c'est comment on peut distinguer deux choses identiques, sinon par la place qu'elles occupent dans l'espace. Et en cela, elles ne peuvent être qu'homogènes et discontinues. Alors, on l'oublie bien souvent, puisque on a l'habitude de compter dans le temps. Mais compter, nous dit Bergson, suppose toujours un espace idéal où peuvent justement se juxtaposer les unités qu'on ajoute à celles qui sont déjà retenues, pour justement composer le nombre total. Et ce qui fait qu'on oublie l'espace qui est systématiquement inclus dans l'acte de numération, c'est l'habitude contractée de compter dans le temps plutôt que dans l'espace. Mais au fond, nous dit Bergson, on a beau compter successivement des moments de la durée, 1, 2, 3, 4, 5, on le fait toujours avec des points de l'espace. Ce qui efface à rebours le temps qu'il nous a fallu pour le faire. Au fond, pour le dire simplement, compter plus vite ou plus lentement n'a jamais rien changé au résultat. On compte dans l'espace et non pas dans le temps. Et c'est l'erreur de Kant, justement, de n'avoir pas vu que pour s'effectuer, l'acte de synthèse, ici l'acte de numération, l'acte de compter, n'implique aucunement le temps de son effectuation. Plus généralement, ce n'est pas dans le temps qu'on pense, mais dans l'espace. C'est l'espace qui conditionne le pouvoir de la pensée. Penser, au fond, pour Bergson, c'est ça. C'est toujours penser dans l'espace. Donc, dire le temps qu'il est un nombre, c'est nécessairement le spatialiser. C'est le rendre comme lui, homogène et discontinu. Bref, c'est convertir le temps en son contraire et juxtaposer des simultanéités sans s'occuper justement du flux qui les traverse, sans s'occuper du flux qui va des unes aux autres. Et la science, aux yeux de Bergson, justement, y trouve même la condition de son exercice. C'est-à-dire que la science, pour pouvoir s'exercer, est dans l'obligation de nier le temps. Pourquoi ? Parce que la science est préscience. Et sa préscience, par où elle anticipe sur les événements futurs, n'est possible justement qu'à convertir le temps en espace. Aller dans le futur, retourner même dans le passé, c'est toujours sortir du temps vécu. Aller dans le futur, aller dans le passé, c'est toujours s'arracher du temps de la conscience, du temps vécu, nécessairement inscrit dans le présent de la conscience. C'est toujours volontairement ignorer ce qui se passe dans l'intervalle, ce qui se passe dans l'intervalle qui nous sépare des événements qu'on veut prévoir. Et de telle sorte qu'on saute par-dessus ces événements et qu'on les tient pour rien. Pour montrer ceci, Bergson va reprendre à Descartes la fiction du malin génie que tout le monde connaît, dont celui-ci s'était servi pour formuler la vérité du cogito. Le malin génie, nous dit Descartes, peut nous tromper de tout sauf de n'être pas. Et en cela, il prouve ma propre existence. Je pense donc je suis. Bergson réutilise cette fiction et imagine même un malin génie qui serait encore plus puissant que le malin génie cartésien. Pourquoi ? Parce que non seulement il nous tromperait, mais il aurait la puissance d'accélérer l'univers. Donc il va supposer un malin génie capable d'accélérer le cours de l'univers 2 fois, 3 fois, 10 fois plus vite. Je le cite, vous trouvez ça à beaucoup d'endroits de son œuvre, notamment au chapitre 2, qui vous intéresse, page 87. Et voilà ce qu'il écrit. Là, probablement que je me réfère au chapitre 3, page 145, mais c'est pareil. Supposons un instant qu'un malin génie, plus puissant encore que le malin génie de Descartes, ordonna à tous les mouvements de l'univers d'aller 2 fois plus vite. Rien ne serait changé au phénomène astronomique. ou tout au moins aux équations qui nous permettent de les prévoir. Car dans ces équations, le symbole T ne désigne pas une durée, mais un rapport entre deux durées, un certain nombre d'unités de temps, ou enfin, une dernière analyse, un certain nombre de simultanéités. Seuls les intervalles qui les séparent auraient diminué, mais ces intervalles n'entrent pour rien dans les calculs. Voilà ce que dit Bergson. Si l'univers allait deux fois plus vite, au fond, rien ne changerait aux formules du physicien. Rien ne changerait aux formules du physicien, à ses équations, ni aux nombres qui y figurent. Comme le dit Bergson, le nombre T signifierait toujours la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il compterait le même nombre de correspondances entre tous les états de tous les objets et le mouvement choisi pour mesurer le temps. Tout serait en même temps emporté dans ce mouvement accéléré. C'est-à-dire que le mouvement de l'horloge serait lui-même emporté dans le mouvement accéléré du tout de l'univers et du coup s'accorderait avec ce qu'il mesure. Les équations astronomiques seraient toujours les mêmes. En revanche, nous dit Bergson, le malin génie, quoique plus puissant que celui de Descartes, eh bien, d'une certaine manière, serait encore impuissant à me défaire de la conscience que j'ai de durée. Et donc, de la même manière, si je puis dire, il va utiliser la fiction du malin génie pour prouver non seulement que la conscience est, mais qu'elle dure. Elle est incapable, cette fiction, d'emporter la conscience dans ses calculs. Éventuellement, cette fiction parviendrait à emporter le savant dans sa propre fiction, si tant est qu'il se fie à ses calculs plus qu'à sa conscience. Mais la conscience, elle, serait, nous dit Bergson, inévitablement perturbée par une telle accélération. Pour la raison précisément que la conscience, elle, elle vit dans les intervalles. Elle vit dans les intervalles que le savant compte, lui se tenant aux extrémités. La conscience vit dans les intervalles que le savant se contente de compter. Et au fond, c'est la conscience, c'est elle qui confère à l'unité de mesure sa détermination concrète. Alors évidemment, elle ne pourrait pas mesurer le changement survenu, mais elle constaterait, c'est l'expression de Bergson, une baisse dans l'enrichissement ordinaire de l'être, une modification dans le progrès qu'elle a coutume de réaliser entre le lever du soleil et son coucher. Si une journée ne durait que 12 heures au lieu de 24, en un sens, il y aurait comme un changement qualitatif qu'elle sentirait en elle, sans pouvoir évidemment le mesurer comme tel. Autrement dit, d'un côté, il y a les mathématiques, la physique, qui se situent aux extrémités des intervalles et qui n'auraient rien à modifier à ces calculs. Et de l'autre, il y a la conscience, qui serait seule avertie du changement provoqué par le tout de l'univers, éprouvant à tout le moins un changement de qualité. Je le cite, elle s'apercevrait de la variation de cette accélération au sentiment tout qualitatif qu'elle en aurait. Et donc, c'est au fond le point que je vais vouloir souligner pendant toute cette intervention. De cette sorte, l'astronomie, les mathématiques, la physique, les sciences révèlent à Bergson, en creux, la science qui doit venir la compléter. On va le voir, loin de lui être antithétique. Et cette science qui vient en quelque sorte la compléter comme en creux, c'est la psychologie. Donc au fond, il y a beaucoup plus une complicité objective, on va le voir, entre la physique et la psychologie, qu'une opposition frontale, comme parfois d'ailleurs on le croit chez Bergson. Je cite Bergson, page 147, « La psychologie porte sur les intervalles eux-mêmes et non plus sur leurs extrémités. » C'est très simple. La science physique, parce qu'elle compte le temps et qu'elle compte sur le temps, porte sur les extrémités des intervalles. La psychologie, en revanche, porte sur les intervalles eux-mêmes. Donc nous comptons les extrémités d'intervalles, mais au fond, nous sentons, nous vivons les intervalles eux-mêmes qui sont, pour ma conscience, absolument déterminés, absolument incompressibles. Et c'est ça, au fond, le cogito bergsonien. Il y a un cogito bergsonien comme il y a un cogito cartésien. Bergson va plus loin, au fond, dans la direction qu'avait indiqué Descartes. Non pas « je pense donc je suis », mais littéralement « je dure donc je suis ». Et d'ailleurs par l'intermédiaire de la même fiction méthodologique, le malin génie. Donc la conscience est indissociablement unie à un temps vécu, à un temps incompressible, à un temps vécu qu'elle sait ne pas avoir fait, faute de pouvoir s'en défaire, faute de pouvoir le défaire et s'en défaire. La conscience est prise dans une portion de durée qu'elle ne peut pas allonger, qu'elle ne peut pas rétrécir à volonté. c'est de l'absolu. Donc on le voit, de plus en plus, se profile une distinction radicale entre les phénomènes intérieurs, internes à la conscience, et les phénomènes extérieurs, qui sont, eux, susceptibles d'une étude scientifique. Ce qui peut être vrai d'un phénomène physique, par exemple une éclipse de lune ou de soleil, sur laquelle justement le temps ne mord pas, ou à peine, ne peut pas être vrai d'une émotion, d'un sentiment, de tout ce qui relève au fond d'un état de conscience, d'un phénomène psychique en général, bref, de ce qui est vécu par la conscience. Pour reprendre cette idée que j'évoquais, un sentiment qui dure deux fois plus longtemps qu'un autre, qu'on croit lui être identique, n'est pourtant pas le même qualitativement. C'est-à-dire que la vie intérieure de la conscience prend du temps, prend son temps. La vie de la conscience évolue continuellement dans le temps. Et tout ce qui a lieu dans le temps en est altéré profondément. Donc il n'y a pas un seul sentiment, une seule émotion, même une seule sensation qui ne s'altère avec le temps. De telle sorte qu'on est, on serait bien dans la capacité de définir une fois pour toutes un état de conscience. Pour la simple raison justement qu'il évolue sans cesse. Il y a quelques exemples qui sont proposés par Bergson au chapitre 1. J'en prends un, la pitié. La pitié, c'est un sentiment, qu'on éprouve. Eh bien, d'une certaine manière, c'est ce que nous dit Bergson, la pitié n'est pas une idée atemporelle qu'on pourrait saisir dans le ciel intelligible de Platon, que l'on pourrait définir indépendamment du temps dans lequel un tel sentiment s'installe. On ne peut pas dire, par exemple, la pitié, c'est ceci ou c'est cela. Comme si la pitié, au fond, serait la même qu'un homme l'ait éprouvé subitement au coin d'une rue en rencontrant un miséreux et à qui il jette au fond quelques pièces pour mieux s'en détourner, et la pitié d'un homme au contraire qui se laisse pénétrer par un tel sentiment au point qu'elle finisse par envahir toute son âme et décider éventuellement d'une vocation. C'est-à-dire que l'idée de Bergson, c'est qu'à mesure qu'un état de conscience, qu'un sentiment progresse en nous, il se modifie, il multiplie les éléments qui viennent se fondre avec le temps. Et donc, l'exemple de la pitié, je peux le prolonger. Il va nous dire, la pitié, d'abord, lorsqu'on l'éprouve subitement, d'une certaine manière, c'est d'abord l'horreur et le dégoût qui nous fait fuir la souffrance d'autrui. Spontanément, en quelque sorte, la souffrance d'autrui nous fait fuir. J'en ai pitié. Mais il suffit, nous dit Bergson, que la pitié continue son chemin et que je l'endure davantage. Alors, justement, la pitié change. Elle change même de sens. Elle cesse d'être quelque chose comme l'horreur ou le dégoût. Elle devient une crainte. Elle devient, nous dit Bergson, la crainte qu'elle n'annonce notre propre souffrance. Tout d'un coup, je vois dans le malheur d'autrui le malheur qui peut un jour venir me frapper. Et j'en éprouve de la crainte. Mais laissez ce sentiment encore vous pénétrer davantage. Laissez-le rouler sur lui-même dans votre durée. Et nous dit Bergson, la pitié devient désir et sympathie. Ça change encore. Elle devient désir et sympathie, je le cite, comme si la nature commettait quelque grande injustice et qu'il fallut écarter tout soupçon de complicité avec elle. J'entre en sympathie avec le misérable. Et enfin, que la pitié dure, nous dit Bergson, au point d'envahir toute notre âme, au point qu'elle colore la totalité de notre âme, et elle devient encore autre chose, elle devient humilité. Cette humilité qui, Bergson nous le dit, nous porte à descendre et à se détacher des biens sensibles. Vous voyez, c'est assez intéressant puisque c'est une manière de reconsidérer tout état de conscience du point de vue de la conscience et du temps qu'elle occupe. C'est-à-dire qu'il est fort possible que les nombreuses définitions que l'histoire de la philosophie, par exemple, a données de la pitié, celle de Nietzsche, celle de La Rochefoucauld, celle de Rousseau, celle de Schopenhauer, au fond, n'est fait que privilégier un des moments du parcours. C'est-à-dire que justement, en négligeant qu'un tel sentiment ait une tendance, un progrès, soit un mouvement, ils ont fait que privilégier un moment du parcours comme s'il était possible de l'abstraire de la durée où un tel sentiment s'incarne. Et on pourrait tout à fait, au fond, échelonner les différentes définitions proposées selon précisément ce mouvement de durée. Alors, probablement que la pitié comme dégoût, c'est Nietzsche. Quelqu'un me fait pitié. Ensuite, c'est la crainte, c'est la Rochefoucauld. Je crains la souffrance d'autrui parce que j'y vois la mienne future, etc. Après, c'est Rousseau, et enfin, c'est peut-être Schopenhauer. On peut tout à fait envisager donc tous ces sentiments dans le temps. Bref, tout ça pour dire qu'on ne saurait jamais raccourcir d'un instant, fût-ce d'un instant, nous dit Bergson, la durée réelle de la conscience, sans modifier la nature des faits qui la remplissent. Alors, il ne faut pas craindre ce malin génie, et néanmoins, il ne faut pas croire qu'il soit qu'une fiction de notre imagination. Bergson ne s'est pas contenté de l'inventer. Imaginons une expérience de pensée, l'univers s'accélère, etc. À vrai dire, c'est ce que dit Bergson plus loin, dans le passage, toujours dans le chapitre 2, c'est que la toute-puissance que Bergson avait attribuée au malin génie, au fond, n'est ni plus ni moins que la toute-puissance que le savant s'octroie réellement. Au fond, le malin génie, c'est le savant lui-même. Le savant qu'on croyait dupé se révèle être le dupeur. Pourquoi ? Parce que la science repose justement sur une telle fiction méthodologique, sur cette possibilité d'accélérer sans cesse le cours de l'univers. Et voilà ce que dit Bergson, page 146 du chapitre 3 ou chapitre 2, page 87. Or, quand l'astronome prédit une éclipse de lune, par exemple, il ne fait qu'exercer à sa manière la puissance que nous avons attribuée à notre malin génie. Il ordonne au temps d'aller 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite, et il en a le droit, puisqu'il ne change ainsi que la nature des intervalles conscients, et que ces intervalles, par hypothèse, n'entrent pas dans les calculs. C'est pourquoi, dans une durée psychologique de quelques secondes, il pourra faire tenir plusieurs années, plusieurs siècles, même de temps astronomique. Telle est l'opération à laquelle il se livre quand il dessine à l'avance la trajectoire d'un corps céleste, ou qu'il la représente par une équation. Voilà ce que dit Bergson. Au fond, toute prévision est en réalité une vision. Même plus encore, dans prévoir, dans savoir, il y a toujours voir. Prévoir ce qui aura lieu, savoir ce qui a eu lieu, c'est toujours voir dans l'espace ce qu'on croyait être dans le temps. C'est toujours voir dans l'espace, et c'est supposer le temps aboli, comme si, au fond, il était étalé sous les yeux du savant. Et donc, au fond, c'est toujours une vision. Dans le savoir, dans la prévision, il y a toujours une vision, quelque chose qui est quand même étalé dans l'espace. Et donc, nous pouvons dire d'une conjonction d'étoiles qu'elle se produira, parce qu'au fond, nous la produisons en raccourci. Nous abrégeons l'intervalle qui nous sépare de l'événement à venir, si je puis dire, pour le voir déjà dans le futur, pour le voir dans le futur comme ayant déjà eu lieu. Et c'est ainsi, nous dit Bergson dans le texte que je vous ai cité, que le savant substitue au trajet la trajectoire que l'étoile suivra. Il va convertir le point mobile en ligne toute tracée. En cela, d'ailleurs, il ne l'accuse pas. L'opération pratiquée par la science est parfaitement licite. La prévision scientifique est efficace. Et il n'y a nul reproche à lui faire. Le point que nous voulons souligner, que nous voudrions souligner, c'est justement qu'il n'a jamais s'agi pour Bergson de faire grief à la science, d'en faire grief. Encore une fois, l'essai sur les données immédiates de la conscience n'est pas un livre contre la science. Mais vous allez voir, en dialogue avec elle, en parfaite complicité avec elle. Bergson s'était d'abord destiné à des études de mathématiques. Et sa conversion vers la philosophie a été comme un retournement subit et inattendu pour lui-même. Donc, il ne s'agit en aucun cas de faire grief à la science d'une telle accélération, puisque une telle accélération doit montrer, d'une certaine manière, au fond, l'étroite solidarité entre le temps de la science, le temps mathématique, et la durée psychologique. Au fond, chacune des deux disciplines apporterait avec elle ce dont l'autre manque. La science mécanique, nous dit Bergson, bien comprise, doit restreindre son droit et refuser d'opérer sur la durée réelle de la conscience comme elle opère sur le temps physique de l'univers. Voilà ce que dit Bergson. C'est-à-dire que si tout n'est pas apparemment donné d'un coup, comme déterminé par avance par des lois, si au fond l'univers dure malgré tout, s'il n'est pas d'emblée déployé dans l'espace, c'est que la durée vécue de la conscience doit échapper à sa juridiction. C'est que la durée de la conscience, au fond, l'en empêche. Le temps, il le dira ailleurs, retarde, ou plutôt il est retardement. Il est précisément ce qui empêche que tout soit donné tout d'un coup. Donc, je termine cette première partie, les deux prochaines seront plus courtes, pour dire, c'est une sorte de bilan provisoire, nous avons donc affaire avec l'espace et la durée à deux types de multiplicité, nous le verrons, et en même temps à deux sciences complémentaires. Les mathématiques, physique-mathématique, d'un côté, et la psychologie de l'autre. Et d'une certaine manière, pour Bergson, elles sont si opposées l'une à l'autre que l'une doit appeler l'autre et y conduire comme son complément indispensable. Elles sont si radicalement opposées qu'elles s'appellent l'une l'autre. Psychologie et mathématiques semblent du même coup, au fond, désigner non seulement deux moyens de connaître le réel, mais aussi deux régions distinctes de la réalité. Deux régions distinctes de la réalité, d'un côté la région conscience, et de l'autre la région monde. D'un côté, au fond, le monde intérieur, de l'autre, le monde extérieur. Et c'est ce qu'il faudra retenir, c'est que l'essai sur les données immédiates de la conscience a une position résolument dualiste. Descartes est plus cartésien que Descartes, il est résolument dualiste. Et le dualisme de l'essai, si on s'en tient à son premier ouvrage, est radical. On ne peut pas faire en un sens plus radical. Au point, nous dit Bergson, qu'en dehors de moi, il y a absence de succession, et en moi, il y a absence d'extériorité. Je cite Bergson, page 81, c'est vraiment peut-être la phrase qui devrait tout résumer, la seule que vous devriez retenir du chapitre 2, où tout est dit. Dans notre moi, il y a succession sans extériorité réciproque. En dehors du moi, extériorité réciproque sans succession. Aucun compromis. Deux régions de réalité absolument distinctes. Hors de moi, pur espace, en moi, pure durée. Absence de succession d'un côté, absence d'extériorité de l'autre. Et au fond, voilà ce que dit Bergson, hors de la conscience, tout est au présent, voire à peine présent. Sans la conscience pour se remémorer le passé, les moments du monde ne sont jamais que des apparitions ponctuelles, évanescentes, fugitives. Des apparitions enfermées dans un présent qui recommence sans cesse. C'est l'expression de Leibniz, une mens momentanea, quelque chose qui apparaît pour disparaître aussitôt. Alors que dans ma conscience, au contraire, tout est duré, tout est succession pure, enroulement du présent et du passé, bref, mémoire. Donc ce qui me conduit à la deuxième partie, plus courte, sur ce qu'on peut appeler le temps homogène. Le temps homogène comme mixte d'espace et de durée. C'est que dans ce chapitre 2, justement, là où on pourrait croire qu'il y a deux temps, un temps réel, celui de la conscience, et un temps défiguré par l'espace, en fait, il y a trois temps. C'est ce que j'aimerais vous montrer. C'est que, évidemment, là, nous avons considéré jusqu'ici le temps mathématique, le temps de la science. Mais s'il était le seul temps, une objection viendrait naturellement à celui qui vit dans le temps sans pour autant se ressaisir comme durée pure. C'est-à-dire que le temps déroulé dans l'espace est réduit à un nombre, c'est plus du temps. N'est pas du tout le temps dans lequel nous vivons et sur lequel nous comptons. Sinon, on ne comprendrait même pas pourquoi les instants que nous comptons dans le temps ne seraient pas comme des points dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas que le temps homogène, le temps social, conserve encore une trace de son caractère temporel. Alors que si le temps n'était que de l'espace, on ne serait plus du tout dans le temps. Ce ne serait plus du tout du temps. et on ne comprendrait même plus comment l'espace peut être confondu avec le temps. Donc il faut bien distinguer au fond le temps de la science du temps social, du temps commun, du temps dans lequel nous vivons. Il faut y insister. C'est-à-dire qu'à ce stade de l'analyse, seul le temps mathématique est identifié à l'espace. C'est le savant qui a intérêt à remplacer le temps par l'espace, afin de prévoir les phénomènes à venir. Mais le temps dans lequel nous vivons, ce qu'on peut appeler le temps homogène, lui, c'est un mixte d'espace et de durée. C'est pas du tout quelque chose qui se réduit à l'espace, c'est un mélange d'espace et de durée. Un mixte de durée et d'espace qui conserve dès lors indéniablement un caractère temporel. Bien sûr. Je le cite. Se forme par un véritable phénomène d'endosmose l'idée mixte d'un temps mesurable qui est espace en tant qu'homogénéité et durée en tant que succession. C'est-à-dire que le temps proprement dit, le temps dans lequel nous vivons, c'est ni de la durée ni de l'espace, c'est justement le mélange, leur mélange. C'est de la durée impure. C'est quelque chose précisément qui se pose à égale distance de l'espace pur et de la durée pure. Et c'est la raison pour laquelle Bergson va parler d'un phénomène d'endosmose, d'une espèce d'échange qui se fait au fond entre les choses et nous, entre la conscience et les choses extérieures, entre l'espace et la durée. Bref, notre expérience est toujours un mixte où nous mettons de l'espace en nous et où nous mettons de la durée dans les choses. Donc il faut bien distinguer dans l'essai trois temps et non pas deux. Il y a, si je puis dire, le temps de la science, le temps mathématique, qui n'est qu'espace. Et alors Bergson parle volontiers d'identité. Le temps est identique à l'espace. Ça, c'est le temps de la science. Il y a, c'est le deuxième temps, le temps homogène, le temps social, le temps humain. Et là, Bergson parle beaucoup plus volontiers d'analogie. C'est un temps qui est analogue à l'espace. Et le troisième temps, vers lequel on s'achemine, la durée pure. La durée pure dans laquelle, justement, les deux premiers temps trouvent leur origine. Donc le temps homogène n'est pas identique à l'espace. Il lui est analogue. Et c'est d'ailleurs exactement le terme qu'Aristote emploie pour désigner leur rapport, analogon, livre 4 de la physique. Le temps est comme l'espace. Donc il faut aller plus loin. Il s'agit, au fond, d'autant moins confondre le temps mathématique avec le temps commun, avec le temps social, que, au fond, sans le premier, jamais Bergson n'aurait pu, et c'est sa méthode, y dégager la durée réelle dans sa pureté. Encore une fois, on va voir que Bergson s'appuie sur les résultats de la science. Nous vivons toujours dans un mixte. Nous vivons toujours dans un mixte avant justement que la science ne vienne se mêler de ce mélange. Je vais le citer, page 79 du chapitre 2. Si nous éprouvons une incroyable difficulté à nous représenter la durée dans sa pureté originelle, cela tient sans doute à ce que nous ne durons pas seuls, à ce que les choses extérieures, semble-t-il, durent comme nous. Autrement dit, la durée pure nous demeure inaccessible, non pas à cause de l'espace que nous y mettons, subrepticement, mais de ce qu'au contraire, nous projetons spontanément la durée dans l'espace. Spontanément, nous projetons la durée dans les choses afin, au fond, de voir l'univers évoluer comme nous. On a l'impression, si je puis dire, que l'univers dure, que les choses durent. Nous y mettons notre propre durée. Mais les choses ne durent pas. Elles sont toujours dans l'instantané, dans le simultané. C'est la conscience qui dure. Mais nous avons cette tendance spontanée, en quelque sorte, à mettre de la durée dans l'espace comme à mettre en nous de l'espace. Donc vous voyez, loin de critiquer la science, Bergson s'appuie sur ses résultats. Au fond, la science physique, la science mécanique a purifié l'extériorité physique de la durée de la conscience, de cette durée que la conscience spontanément y projette. Donc la science physique, c'est précisément celle qui ne considère que l'espace en dehors de nous et qui purifie l'univers de la durée que nous venons y mêler. Eh bien, en raison inverse, au fond, comme elle, il s'agirait à présent de purifier l'intériorité psychique de l'espace que nous y mettons. De la même manière, dans un geste parfaitement symétrique au geste de la science dépouille l'univers de la durée, à nous de dépouiller en nous l'espace que nous y mettons. Nous avons toujours tendance, en quelque sorte, à spatialiser notre conscience, à la voir comme une chose. Eh bien, il s'agit au fond, ici, de la purifier de cette spatialisation indue. Donc, c'est un point que je veux souligner. Bergson ne gagne pas la durée pure contre la science, mais bien, en quelque sorte, avec sa complicité. Et sur ce point, il faut compléter Deleuze. D'ailleurs, s'il y avait un livre à vous conseiller, mais j'imagine que vous l'avez déjà lu, lumineux sur Bergson, c'est le bergsonisme de Deleuze. Sa parole est aussi brève qu'efficace. Et certains n'aiment Bergson que grâce à lui. Donc évidemment, lisez-le. Que dit-il ? Il le résume admirablement bien. Il va dire que Bergson a érigé une méthode qui est la division des mixtes. C'est-à-dire que, voilà, la méthode bergsonienne, il s'agit toujours de retrouver dans l'expérience les vraies différences de nature. Sous les différences de degrés, il s'agit de retrouver les véritables articulations du réel, les vraies différences de nature. L'expérience, ici en l'occurrence, c'est toujours un mixte d'espace et de durée. Nous vivons dans le mixte, dans le mélange. Mélange d'espace et de durée. Et ces éléments sont si bien mélangés dans notre expérience, au fond, que nous avons toujours tendance à les considérer comme un élément simple, de l'espace-temps, auquel, du coup, nous n'avons guère autre chose à opposer qu'un principe qui n'est ni spatial ni temporel, l'éternité. Du coup, on opposera toujours l'espace-temps d'un côté à l'éternité. Et on verra entre eux une simple différence de degré. On dira l'éternité l'être parfait, le temps n'en est jamais que l'amoindrissement, la dégradation, la diminution. Et c'est comme ça qu'avant Bergson, on a toujours considéré le temps et l'éternité. Faute précisément de voir que nous vivions dans une expérience mixte. Et il s'agit au fond de dissocier dans l'expérience les véritables articulations. D'un côté l'espace, justement, de l'autre la durée. Donc il s'agit, nous dit Deleuze, pour Bergson, de démêler dans l'expérience les éléments purs, la durée d'un côté, l'espace de l'autre. Ça, Deleuze l'a dit, et l'a dit une fois pour toutes. Je vous y reconduis. Et il l'a dit avec une brièveté de parole redoutablement efficace. Mais il faut simplement ajouter une chose essentielle, c'est que, justement, c'est qu'il n'est pas possible pour le philosophe, de suivre les articulations du réel sans s'adosser aux résultats de la science, sans s'appuyer sur la distinction qu'a opérée la science en faveur de l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intuition qui réussit à trancher au sein du mixte, qui va d'une certaine manière dire « ça c'est la durée, ça c'est l'espace ». Ce n'est pas l'intuition qui va d'abord permettre à la conscience de se ressaisir elle-même. C'est bien le débat que la philosophie entretient avec la science. Et ça, c'est une des originalités de Bergson, que justement de mettre la philosophie de plein pied avec la science et d'en rendre possible le débat. La science, la philosophie n'est plus la reine des sciences qui surplomberait toutes les autres. Elle est au contraire avec les sciences, elle est capable de dialoguer avec elles. C'est ce que fait Bergson dès son premier livre. Et c'est une des singularités de son œuvre que de faire ça. Donc c'est dans le débat qu'elle entretient avec la science que la philosophie se donne les moyens nécessaires à cette opération dichotomique, cette capacité de trancher le mixte et de dissocier l'expérience dans ses éléments purs. Eh bien, vous voyez, en identifiant radicalement le temps et l'espace, en spatialisant complètement le monde extérieur, eh bien, la science a permis par passage à la limite de dégager dans sa pureté l'autre élément qui vient toujours s'y mêler, la durée pure. Et que sans elle, nous aurions été incapables de ressaisir. Donc, le temps mathématique, parce qu'il n'est qu'espace, permet justement de démêler le mixte et d'appeler en creux l'élément pur qui le complétera pour composer le réel, la durée pure. Vous voyez, c'est très simple, j'espère, même si ça peut vous paraître abstrait, l'opération de Bergson. La science a dissocié le mixte, il s'agit au fond d'en compléter la découverte en se ressaisissant soi-même comme durée pure. Je cite Bergson, page 172, c'est dans la conclusion. Ces deux éléments, étendue et durée, la science les dissocie quand elle entreprend l'étude approfondie des choses extérieures. La dissociation s'opère ici très nettement et au profit de l'espace. Il faudra donc l'opérer encore, mais au profit de la durée, quand on étudiera les phénomènes internes. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire que plus se fortifient les résultats scientifiques, plus on accentue la différence permettant, au fond, de démêler les éléments purs, au sein du mixte. C'est ce que je disais quand j'énonçais que les mathématiques et la psychologie, au fond, sont complices, sont indispensables l'une à l'autre, et permettent de retrouver dans l'expérience ces véritables articulations. Pour le dire d'une formule, d'un côté, les sciences ont réussi à détemporaliser l'espace au sein du monde extérieur, et donc il appartient à la philosophie de déspatialiser le temps au sein du monde intérieur. C'est-à-dire qu'il appartient à la philosophie de déspatialiser le temps et du coup de nous interdire de nous objectiver comme une chose, d'objectiver la conscience comme une chose, d'en faire une chose mesurable. Donc, la durée est une donnée immédiate, c'est une expérience immédiate, d'une certaine manière, mais qui ne peut être acquise que par bien des détours. Donc la durée, c'est le paradoxe qu'il faut soutenir, c'est peut-être une expérience immédiate, celle qu'on fait de soi-même, spontanément, mais elle ne peut être ressaisie en tant que telle que par des détours, et notamment le détour d'une analyse de la science. Au fond, l'expérience de la durée pure est une expérience médiatement immédiate. Elle a besoin d'une série de médiations pour pouvoir être ressaisie comme telle. L'immédiat n'est pas justement ressaisi immédiatement. Elle a besoin de tout un cheminement, de toute une analyse, de toute une étude, d'un dialogue critique avec la science pour être ressaisie. Et donc il s'agit bien d'une expérience, en un sens paradoxalement, médiatement immédiate. Je termine avec le temps réel, le temps réel comme durée, comme temps vécu, c'est-à-dire le troisième temps, vous voyez, qui est le dernier finalement qu'on peut ressaisir. Pourquoi l'expérience de la durée est-elle une expérience médiatement immédiate? La raison en est simple, c'est que justement, le titre le dit bien, la durée n'est pas donnée à la conscience. Elle n'est pas donnée à la conscience, comme au fond à distance d'elle, pour mieux se voir. Elle est une donnée de la conscience. Elle est une donnée de la conscience, elle est au plus proche d'elle, comme le tissu dont elle est faite. Et donc, coïncidant avec elle, d'une certaine manière, elle ne peut s'objectiver. Elle ne peut s'atteindre qu'en dernière analyse. Et comme la science nous apprend au fond à voir toute chose sous l'espèce de l'espace, la philosophie, elle, nous apprend à voir toute chose sous l'espèce de la durée, subspecie durationis, comme il le dit ailleurs. Je passe deux, trois choses que je voulais dire, mais ce n'est qu'à la fin, encore une fois, qu'il va s'agir de se ressaisir comme tel, indépendamment du monde extérieur. Et il s'agit au fond de penser dans toute sa rigueur la distinction de la conscience d'un côté et du monde de l'autre. Il s'agit au fond de radicaliser le geste cartésien, trancher avec le glaive cartésien pour nous séparer du monde et nous ressaisir en tant que tel. Le fameux passage se situe à la page 67, et ce n'est qu'au terme de l'analyse qu'il est possible de le faire. Voilà ce que dit Bergson. Nous allons donc demander à la conscience de s'isoler du monde extérieur et par un vigoureux effort d'abstraction de redevenir elle-même. Encore une fois, la conscience se trouve toujours voilée elle-même, se trouve toujours masquée à elle-même par les formes qu'elle destine originairement au monde. C'est-à-dire qu'au fond, elle se comprend comme elle comprend le monde. Parce qu'elle est le plus souvent en contact avec le monde, elle se comprend par réfraction dans l'espace. Elle se comprend avec des catégories qui, dans un sens, lui servent à appréhender le monde. Il faut donc qu'elle s'en arrache. Il faut donc qu'elle s'isole. Qu'idéalement, elle fasse abstraction du monde dans lequel elle vit. Qu'elle se découvre en elle-même, et elle verra alors une réalité qui n'a rien à voir avec l'espace, avec une réalité qui n'a rien à voir avec le nombre, avec un autre type de multiplicité, c'est encore Deleuze qui l'a souligné, un autre type de multiplicité, un type de multiplicité de fusion, d'interpénétration, et non pas de juxtaposition. Voici les deux définitions que Bergson nous donne de la durée pure. Page 83-89. Je le cite. « La durée toute pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. » Ou encore, la pure durée pourrait bien être qu'une succession de changements qualitatifs qui se fondent, qui se pénètrent sans contour précis, sans aucune tendance à s'extérioriser les uns par rapport aux autres, sans aucune parenté avec le nombre. Donc, la durée pure va ici signaler un nouveau type de multiplicité, une nouvelle manière d'articuler l'un et le multiple. C'est-à-dire qu'au lieu de séparer les unités, les moments, les uns des autres de façon juxtaposée, eh bien, il s'agira de les fusionner, proposant ici une synthèse de l'un et du multiple tout à fait originale, d'un genre, comme le dit Bergson, tout nouveau, une synthèse mentale très particulière, une manière d'articuler l'un et le multiple, au fond, qui n'a rien à voir avec l'acte de numération. Et on peut définir cette synthèse nouvelle en lui donnant trois traits. Et je terminerai par là. Trois manières, au fond, de définir la durée pure. Et de suggérer cette synthèse qui n'a pas de nom, tout à fait particulière, d'un genre tout nouveau. Premier trait, première manière de qualifier cette synthèse, cette manière de relier les moments du temps les uns avec les autres, on dira que la durée pure est une synthèse immanente. Une synthèse intérieure. Pourquoi ? Parce que cette continuité temporelle, elle est donnée. Elle n'est pas à construire, elle est donnée. Elle n'est pas, en quelque sorte, cette durée composée d'instants que nous aurions ensuite pour charge de relier entre eux. Ce n'est pas d'abord une multiplicité d'instants qui nous est donnée et qu'on aurait pour tâche de relier les uns aux autres. D'une certaine manière, la conscience est tout entière donnée à elle-même avec toute l'épaisseur de sa mémoire. Il y a une manière de, pour le passé de se poursuivre dans le présent. Il y a une continuation du passé dans le présent sans avoir à en passer par un acte de synthèse extérieure. Donc ce à quoi il faut renoncer, ce serait l'idée par exemple de se donner une multiplicité d'instants, d'abord, disjoints, séparés les uns des autres, et qu'au fond, nous relierions ensemble, comme nous relions les perles d'un collier par un fil. Ça, c'est encore de l'acte de spatialisation. C'est encore un acte de numération. Chez Bergson, les moments de la durée s'interpénètrent, entre les uns dans les autres, fusionnent. L'unité est dans le multiple, d'une certaine manière. Je cite Bergson, c'est une mémoire intérieure au changement lui-même. Donc pas plus qu'il n'y a un avant et un après, il n'y a de passé et de présent séparés l'un de l'autre. Le passé insiste dans le présent. Le passé se prolonge dans le présent, lui donne une épaisseur, lui donne une consistance. C'est dire que, évidemment, l'expérience que nous avons du présent n'est pas ponctuelle. L'expérience que nous avons du présent n'est jamais celle d'un présent ponctuel. C'est celle d'un présent qu'on va dire élargi. C'est un présent qui déborde sur son passé, même qui déborde sur son avenir imminent. C'est un présent vécu, élargi, gros du passé, gros de l'avenir. C'est une multiplicité confuse, comme le dira Bergson, où au fond, les parties, les instants ne sont qu'à l'état virtuel. Donc, d'une certaine manière, il y a fusion. L'un est dans le multiple dans l'un. Dans un autre article, Bergson dira « c'est une unité multiple ». Montrer précisément que la multiplicité n'est pas suffisamment détachée pour qu'on puisse les compter. Donc, premier trait, la durée est une synthèse immanente. Deuxième trait, on pourrait, pour employer le terme d'un autre philosophe, Husserl, dire que la durée est une synthèse passive. Pour essayer, au fond, à chaque fois, de dire le paradoxe qu'est le temps. On parle de synthèse immanente, cette fois-ci, on peut parler de synthèse passive. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est-à-dire que d'un côté, le temps, c'est bien la conscience qui en fait la synthèse. C'est bien par la conscience que je relie les moments les uns avec les autres. J'en fais la synthèse. Elle est bien, comme le dit Bergson, opérée par ma conscience. Page 83-92. Mais d'une certaine manière, cette activité, nous dit Bergson, est comme identique à la passivité. C'est ça qui est dur, même impossible à penser. Cette activité est identique à la passivité. Parce que cette manière de faire le temps, je le subis. C'est ça le paradoxe. Je fais le temps et en même temps, j'ai l'impression de le subir, qu'il se fait en moi sans mon intervention volontaire. Donc, on peut parler ici d'une synthèse qui se fait malgré nous, en nous. La durée est à la fois subie par la conscience et en même temps déployée par elle. En sorte qu'on ne peut même plus dire laquelle des deux, la conscience et la durée, rend l'autre effective. Si c'est la durée qui fait la conscience ou la conscience qui fait la durée. Bref, pour le dire encore autrement et à chaque fois jouer du paradoxe, la durée pure se présente à nous comme un fait, et personne ne dit. Page 129, la durée se présente à nous comme un fait et en même temps comme un se faisant. C'est-à-dire que le fait de la succession est en même temps un acte en train de se faire. Il y aurait ici, et j'accumule les paradoxes, comme une identité du passé et du passé. C'est-à-dire du passé et du passé ER. Mélange d'activité de passivité. Quelque chose qui se fait en moi et en même temps dans laquelle j'ai part. Troisième manière de définir cette durée, et là le terme est de Bergson, page 83, la durée est une synthèse qualitative. Ouais. Trois manières, au fond, encore une fois, de définir ce genre tout nouveau de synthèse, très difficile à dire. Cette fois-ci, la durée est une synthèse qualitative. Donc une synthèse immanente, une synthèse passive, et maintenant une synthèse qualitative. C'est-à-dire que la durée, c'est l'autre paradoxe à penser, forme une totalité qui prime sur ses parties. C'est-à-dire que dans la durée, ce qui est premier, c'est la totalité, et non pas les parties qui se trouvent virtuellement en elle. La durée forme une totalité qui prime sur ses parties, lesquelles se réorganisent sans cesse en vertu de sa continuité. La durée est sans cesse en voie de formation. C'est-à-dire que la durée n'est pas du tout la somme de ses parties. On ne peut pas dire du temps qu'il est la somme de ses parties. Le tout est premier. Et la durée est aussi bien tout entière dans chacune de ses parties. C'est-à-dire que le présent qui vient sans cesse remplacer le précédent ne vient pas s'accumuler comme on empile des pièces de monnaie. À chaque fois, le présent qui s'ajoute s'organise avec l'ensemble, s'organise avec la totalité de la durée de la conscience, vient se fondre, en un sens, dans la conscience et modifie la totalité qu'elle est. Bref, la durée, c'est la définition qu'il en donne, est une organisation intime d'éléments dont chacun est représentatif du tout. À chaque fois, chaque nouveau présent vient qualifier la totalité même de la conscience, sans s'y ajouter simplement. Donc à chaque fois, j'ai essayé de dire ce qui est difficile à dire, en soulignant des paradoxes. Synthèse immanente, c'est un paradoxe. Synthèse passive, c'est un paradoxe. Synthèse qualitative, c'est un autre paradoxe. Et c'est un type de multiplicité ici qui est proposé, nouveau, qui d'une certaine manière, au lieu d'articuler ensemble, comme la science, discontinuité et homogénéité, articulerait ensemble continuité et hétérogénéité. Donc pour résumer, on dirait de la science, de la durée, pardon, qu'elle est à la fois continue et hétérogène. C'est-à-dire que si on a cru que durée, c'est demeurer, c'est qu'on n'a pas en un sens examiné ce que pouvait bien vouloir dire la continuité réelle. À bien y penser, nous dit Bergson, c'est que si la continuité est réelle, elle doit conduire nécessairement à l'idée d'hétérogénéité. La durée bien pensée, ce n'est pas justement ce qui demeure toujours le même. La durée bien pensée, sitôt qu'on pense une continuité réelle, c'est ce qui change sans cesse de soi avec soi. C'est ce qui se modifie sans cesse. Ce qui s'altère totalement sans cesse. Un état de conscience ne peut jamais se répéter à l'identique s'il doit se poursuivre réellement dans le temps. Et donc, la durée, on pourra dire, modifie continuellement son contenu, non pas en dépit du fait qu'on le dit durée, mais précisément parce qu'il dure. Parce que la durée continue, alors elle est homogène, elle est hétérogène. Alors, vous voyez, c'est que la continuité bien comprise est génératrice d'hétérogénéité, est génératrice de différenciation. Et donc, au fond, de liberté. C'est ce qui, précisément, va conduire Bergson du chapitre 2 au chapitre 3. C'est que, disant que la durée de la conscience est continue et hétérogène, eh bien, par là même, il montrera que la conscience est libre. J'avais plusieurs choses encore à dire. J'avoue que la fatigue me gagne. Vous avez mangé, moi pas. Vous avez eu un sacré avantage sur moi. Donc, ma durée s'arrête là. Merci à vous.
On va le faire durer un petit peu encore. Vous avez le droit de poser des questions. Pas tous en même temps. Donc, quelqu'un veut poser une question ? Prends le micro.
Bonsoir, tout d'abord merci. Je voulais savoir si vous pouvez expliquer le laisser-vivre de Bergson rapidement, globalement.
Oui. Ça aussi, je l'ai mis de côté. C'est encore un autre paradoxe. Bergson nous invite donc à nous détacher du monde extérieur, à s'isoler du monde extérieur pour se ressaisir soi-même. Mais au fond, c'est un acte difficile à faire et que lui-même n'arrive à dire que par paradoxe, notamment se laisser vivre. Parce qu'il dit, au fond, là où nous sentirions le mieux la durée vécue de la conscience, c'est à l'état de rêve, quand nous dormons. C'est-à-dire qu'il s'agirait, au fond, à l'état de veille, de se donner les conditions d'un se laisser vivre qui sont celles précisément de l'état de rêve. Paradoxe, impossibilité, voyez. Donc il y a cette idée-là, en quelque sorte, qu'il s'agit, oui, de se laisser vivre et de laisser la durée se poursuivre en nous continuellement. Et ça, c'est le rêve qui nous semble le signifier le mieux. Autrement dit, c'est une expérience, encore une fois, une expérience limite. Je ne crois pas que dans l'ouvrage, Bergson nous donne véritablement à expérimenter la durée dans toute sa pureté, parce que sans cesse nous la contaminons. Nous sommes véritablement comme Midas qui ne pouvait toucher une chose sans la transformer en or. Nous, en quelque sorte, nous ne pouvons pas nous regarder sans nous objectiver, sans nous spatialiser. Sitôt que nous plongeons notre propre regard en nous-mêmes, voilà, nous nous objectivons, nous nous spatialisons. Nous n'arrivons pas à nous laisser vivre, parce que spontanément, nous avons cette tendance à tout dérouler dans l'espace.
Donc ça voudrait dire que pour lui, il y a une impossibilité à se laisser réellement vivre, enfin, pour reprendre son expression, à part dans le sommeil, ou dans un semi-rêve, ou quelque chose comme ça.
Si, si, il y a bien sûr, il y a une possibilité, mais celle-ci elle-même ne peut pas toucher à sa propre limite.
D'accord.
Mais évidemment, heureusement que Bergson lui-même s'octroyait des repos, il se laissait vivre. C'est même cela qu'il nous recommande. C'est qu'au fond, le plus difficile, c'est ce qu'il dit, le plus difficile, c'est de se laisser vivre.
D'accord, merci.
Bonsoir, excusez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris, en fait, mais j'ai l'impression que Bergson, du coup, pour lui, le temps, ce serait juste quelque chose que notre conscience construit.
Alors, non. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez pas compris. Je confirme. Non, c'est justement pas quelque chose que notre conscience construit. Le contraire du construit est dans le titre. Ce qui n'est pas construit est donné. Ce qui est donné, ce qui n'est pas donné est construit. Donc il s'agit bien de rejoindre le temps dans sa donnée immédiate telle qu'il nous est donné. Et en cela, je ne l'ai pas construit. C'est pour ça que je ne peux pas dire que j'en fais la synthèse, que je fais en moi la synthèse des différents moments qui se succèdent. Parce que précisément, ma conscience ne construit pas le temps. En cela, je devais user d'un paradoxe et parler avec Husserl ou Bergson de synthèse passive. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait en moi, mais dont je ne suis pas l'auteur. Vous voyez ? Les parties se poursuivent, se pénètrent les unes les autres, et en même temps, je n'en suis pas l'instigateur. Et en cela, je ne construis pas le temps. C'est une donnée, et c'est une donnée immédiate. Donc non, on est vraiment à l'antipode. En tout cas, de ce que vous dites.
D'accord. Donc, du coup, Bergson, il nie pas du tout le fait qu'il y ait de temps, par exemple, naturel ou le temps des choses qui s'usent ou...
Alors, ça, c'est une très bonne question. Bergson a élaboré sa propre philosophie en prenant son temps lui-même. Et donc, il ne dit pas la même chose dans tous ses ouvrages. D'où la difficulté aussi pour vous quand vous l'expliquez. Si on s'en tient au cadre de l'essai sur les données immédiates de la conscience, la réponse ne sera pas la même que si je tiens compte des ouvrages postérieurs. Donc si on s'en tient à l'essai, on doit dire que l'univers ne dure pas. D'accord. Que les choses hors de nous ne durent pas, ne sont pas dans le temps. Et ça, c'est la science qui nous l'apprend. Genre la rivière qui s'écoule, elle n'a un passé, un présent et un futur que pour moi qui en suis le spectateur. C'est moi, en un sens, qui en trace le cours et qui dit que son avenir est là-bas. Mais en elle-même, la chose, la rivière, elle est toujours dans le présent. Sans un spectateur, si je puis dire, qui s'inscrit ici quelque part pour l'observer, la rivière est toujours au présent. Il n'y a pas de temps. Et donc, on ne peut pas attribuer de la durée aux choses sans la projeter. Voilà ce que dit Bergson dans l'essai.
D'accord.
Et quand nous pensons que l'univers dure, c'est qu'au fond, nous y projetons notre propre durée. Mais la science nous apprendrait précisément que l'univers, lui, ne dure pas, n'est pas dans le temps.
D'accord.
Mais par la suite, c'est évident que matière et mort, et surtout l'évolution créatrice, va lui faire découvrir une durée qui déborde largement la durée du moi. Il va s'apercevoir précisément que la durée est partout, qu'elle est aussi dans les choses. Mais alors, du coup, cette durée-là échappera aussi à la science, qui sera dans l'incapacité de pouvoir la saisir. Parce que qui dit durée dit imprévisibilité. Et qui dit imprévisibilité dit ce qui échappe à la science. Oui. Mais là, c'est plus tard. À la rigueur, vous n'avez pas à en tenir compte.
D'accord.
Voilà.
Merci.
Bonsoir. J'aimerais savoir, en fait, pourquoi Bergson fait l'impasse sur la mort, en fait, alors que le temps vécu renvoie directement à la mort.
Alors, pourquoi Bergson fait l'impasse sur la mort, alors que...
Le temps vécu renvoie directement à la mort, puisque c'est un peu la fin de toute vie. C'est la limite du temps vécu.
Non, mais attendez. Une lapalissade n'est pas une contre-vérité. C'est une profonde vérité. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais qui se comprend. Bergson n'était absolument pas un penseur de la mort. Et on va le voir, c'est que la durée même va le conduire peu à peu à être un penseur de la vie. Pour lui, philosopher, c'est précisément penser la vie et non pas penser la mort. Et que la durée elle-même ne lui permet pas de penser la mort, parce que d'une certaine manière, une fois qu'on se confie à elle, eh bien, en quelque sorte, il y a toujours du mouvement pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit dans la durée qu'elle aura une fin. Elle est, en vertu de sa continuité même, toujours en avant d'elle-même. Elle se poursuit sans cesse. Et on ne voit pas, en tout cas dans l'essai, la possibilité que soit inscrite en elle quelque chose comme une fin. Mais c'est une bonne question, c'est que Bergson, c'est le premier, au fond, à se fier au temps. Jusqu'ici, le temps, parce que précisément c'était une succession d'instants fragmentaires, disjoints, le temps c'était d'abord la corrosion, c'était l'usure, c'était la décréation, c'était toujours le temps de la corruption. Et on ne pouvait jamais se fier au temps, puisque le temps, c'était le temps destructeur. C'est la raison pour laquelle il s'agit toujours de l'adosser à une éternité, qui elle était le véritable être. Vous voyez ? Et donc oui, le temps était toujours rabattu du côté de la mort, toujours rabattu du côté de la décréation. Ce que fait Bergson, c'est que, d'une certaine manière, lorsque le temps est véritablement rétabli dans ses données immédiates, eh bien, il n'est plus destructeur, il est créateur. Vous voyez ? Il n'est plus corrupteur, il est générateur. Il y a tout d'un coup une confiance et une dimension d'être dans le temps lui-même. C'est-à-dire que ce que fait Bergson, c'est qu'il découvre que le temps n'est pas un moindre être, n'est pas une dégradation d'être par rapport à l'éternité. Que le temps a quelque chose de substantiel, de consistant. Et en un sens qu'il ne faut pas s'en effrayer. Donc Bergson, c'est un des premiers, au fond, à faire confiance à l'œuvre du temps. Là où les philosophes avant lui, au contraire, étaient toujours plus attentifs à son côté destructeur, corrupteur. Depuis Aristote, le temps, c'est le temps de la destruction. C'est ce qui détruit les choses. C'est ce qui amoindrit les choses. Et en ce sens-là, vous voyez, il ne peut pas penser la mort. D'abord. Parce que ce qu'il découvre d'abord, c'est l'œuvre bienfaitrice du temps. Le fait que lorsque nous sommes dans le temps, lorsque la conscience est dans le temps, elle n'est pas diminuée d'elle-même. Elle est pleinement. Là où les Grecs voulaient rejoindre l'éternité pour être intensément, Bergson nous apprend au fond que dans le temps, ici même, en se laissant porter par le temps, nous sommes, et nous sommes autant que nous pourrions l'être. J'espère que je me fais entendre.
Oui, mais justement, d'oublier le temps vécu, c'est pas, enfin, d'oublier la mort, c'est pas. Est-ce que c'est pas justement oublier la plus grosse partie du temps vécu, puisque tous les jours on est hanté par l'idée de la mort et c'est un grand facteur dans notre temps vécu. Et de pas en parler, est-ce que c'est pas justement un gros manque?
Si, mais vous voyez, c'est possible aussi de dissocier temps vécu et durée vécue. C'est-à-dire que là, l'expérience que Bergson nous invite à faire, c'est l'expérience du présent, de cette durée précisément qui vous inscrit dans le présent de la conscience. Bergson vous apprend qu'au contraire, sitôt que vous quittez le présent, vous vivez dans des temps imaginaires. C'est la citation de Pascal. On passe notre temps à vivre dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Sans cesse, nous sommes renvoyés dans le passé ou dans le futur, qui n'est pas du temps vécu. C'est-à-dire que ce que vous appelez vous hanté par l'idée de mort, c'est pas vrai. C'est quelque chose précisément qui vous arrache au temps vécu et que vous imaginez. C'est un temps qui n'est pas le vôtre. Et le problème, c'est justement, c'est que le plus souvent, parce que nous avons tendance à spatialiser notre durée, nous vivons dans des temps qui ne sont pas les nôtres. Nous vivons dans le passé, dans le présent, dans le futur, mais jamais, si je puis dire, dans la durée épaisse de notre conscience, telle qu'elle se donne immédiatement à nous-mêmes. C'est comme ça que je répondrai. Merci.
Oui, donc dans votre premier paradoxe, la synthèse intérieure, vous dites que donc la continuité temporelle est donnée. Bon, après, vous dites que c'est aussi une une synthèse qu'on doit effectuer nous-mêmes. Et précédemment, vous avez dit que le temps scientifique, donc c'est le temps qu'on a pris le temps, disons la durée, et on lui a enlevé toute notion de temporalité pour avoir plus que l'espace. Et en revanche, pour la durée pure, c'est on enlève la notion d'espace au temps.
Au fond, on fait l'opération inverse. Ouais.
Ce que j'aimerais savoir, c'est Bergson, lui, dans son œuvre, est-ce qu'il dit pas que c'est le temps qui précède l'espace, que juste l'espace c'est une fiction, enfin c'est une construction. On n'a pas une intuition de l'espace, on le construit avec l'intelligence. C'est le temps qu'on intuite. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Est-ce que vous pourriez expliquer comment Bergson voit la notion de l'espace? Est-ce que c'est une construction ou est-ce que c'est au même titre que le temps quelque chose qu'on...
Oui, non, c'est une très bonne question et très difficile. Parce qu'elle a évolué aussi avec le temps. Si vous devez vous en tenir à l'essai, il est vrai que Bergson se focalise et porte toute son attention sur l'idée de durée. Et donc, il va le dire d'ailleurs dans le chapitre 2. Il dit au fond, la notion d'espace, telle que je la comprends, c'est la notion telle que Kant la comprenait. Il va reprendre presque à son compte la définition que Kant nous proposait de l'espace, c'est-à-dire la forme a priori de notre sensibilité. Donc, dans l'essai, au fond, il se contente simplement de reprendre une définition kantienne de l'espace. C'est la manière dont nous appréhendons le monde. C'est la forme même de notre connaissance. Ouais. Par la suite, il changera. Par la suite, justement, il va vouloir donner de plus en plus de réalité à l'espace. Et dans « Matière et mémoire » et dans « L'évolution créatrice », précisément, tout son projet aussi, ce sera d'inscrire l'espace dans les choses. L'espace n'est pas simplement une forme qui nous permet d'appréhender les choses matérielles, c'est que les choses matérielles elles-mêmes sont quelque chose de spatial. Et donc, il y a toute une évolution, même de la notion d'espace, chez Bergson, à travers ses différentes œuvres. Mais pour vous, étudiants l'essai, contentez-vous de la définition, finalement, que Kant en propose. C'est la forme, a priori, de notre sensibilité, la manière dont nous percevons le monde à travers l'espace.
Donc les deux autres temps, c'est-à-dire le temps scientifique et le temps homogène, le temps social, sont des outils qu'on a créés à partir de l'espace pour pouvoir tous s'homogénéiser, on va dire, en quelque sorte, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Donc, accorder les différents rythmes de chacun. À la base, il y a la durée, et ensuite, ce sont bien des outils. On a bien utilisé l'espace pour construire le temps scientifique et le temps social.
Oui, c'est pas les mots que j'emploierais, mais on en fait un instrument de mesure, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que le temps devient un instrument de mesure. Qui permet d'étudier un phénomène dans sa progression. Et oui, je répondrai oui.
Bonsoir. J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par le temps social est homogène, parce que le temps social, vous avez dit que c'est un mix entre l'espace et la durée, et que la durée est elle-même hétérogène. Du coup, je vois pas en quel sens le temps social est homogène.
Vous avez raison. Le temps homogène, c'est un mixte. En ce sens que le temps apporte avec lui la succession, l'espace apporte avec lui l'homogénéité. Donc, on peut parler de mixte dans le sens où le temps dans lequel nous vivons, nous croyons qu'il est à la fois successif et homogène. Un petit peu à l'image de nos calendriers, de nos frises, de nos chronologies. Donc, il y a bien mixte. L'espace apporte un de ses attributs, l'homogénéité, le temps apporte un de ses attributs, la succession. Et on en fait un mixte, quelque chose de composite qui n'est ni la durée pure, ni l'espace pur. Et au fond, qui est le temps dans lequel nous vivons. Et qui nous permet d'avoir prise sur lui. Vous voyez ? Parce que ça, c'est la raison aussi, une des raisons pour lesquelles, précisément, Bergson finit par rejeter le mot de temps, la notion de temps, au profit de celle de durée. C'est que le temps, dans son étymologie, thème, veut dire couper, diviser. Quand on dit temps, d'une certaine manière, on pense les divisions de temps. C'est-à-dire que c'est comme si le verre était dans le fruit. Quand je parle de temps, déjà, j'implique la mesure. Les premières manières de concevoir le temps, c'était le cycle des saisons, c'était cette cyclicité, cette périodicité. C'était la mesure. C'est pour ça qu'il a préféré choisir précisément un mot qui ne contienne pas implicitement cette volonté de mesurer le temps. La durée n'a pas ça. La durée, précisément, c'est ce qu'on ne peut pas maîtriser, c'est ce qu'on ne peut pas mesurer. Or, le temps, parce que c'est cela même qui échappe à nos prises, on a voulu faire un instrument pour pouvoir le maîtriser. Le temps, si je puis dire, c'est cette durée qu'on cherche à maîtriser parce qu'elle nous échappe sans cesse. Le temps des horloges, c'est un temps captif, c'est un temps apprivoisé, c'est un temps sur lequel nous comptons, avec lequel nous comptons, sur lequel nous pouvons compter, qui ne nous fait plus peur, d'une certaine manière, parce qu'il a été spécialisé. Vous voyez ? La durée, c'est justement ce qui nous échappe, ce qui suppose un lâcher-prise, un laisser-vivre, pour reprendre votre question. Et donc, c'est bien cette fuite, cette évanescence, cette fugacité qu'il s'agit de ressaisir, comme telle. Parce que jusqu'ici, on a toujours instrumentalisé l'instrument de temps en vue de notre prise, de notre maîtrise sur les choses. Donc il y a cette opposition frontale. C'est la raison du temps social. C'est la raison pour laquelle on spatialise le temps. C'est que grâce à lui, on peut maîtriser les choses. C'est une autre question ?
D'autres questions ? Bon ben on va remercier Camille et constater qu'il n'est pas du tout un mauvais pédagogue. Voilà.
Le chapitre était difficile.
Ça c'est pas de sa faute.
Cela dit, vous le saviez avant de venir. Et c'est pour cela que vous êtes venu.